Nous allons quitter la commune de Paris
Paris.
et cette semaine où nous étions pendant deux émissions et nous allons retrouver Diego qui est très impatient. Alors si c'est Diego qui fait la chronique aujourd'hui,
Devinez le style.
à mon avis, on va partir sur du polar, sur du policier.
Non, non, c'est
Non,
vrai?
si oui, je pense.
Ah
bon?
bon? Eh bien, justement,
il est
non, c'est
polar.
pas du
Grégoire Rabin.
polar.
Ah, mais je découvre
Non.
ça.
Non,
Alors,
c'est du roman noir.
Bon, bonjour, au
c'est du
fait,
roman noir.
Cybercast.
Oui, bonjour.
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 Oui, non, mais il attaque bille en tête comme ça, sans
ah,
même nous dire bonjour.
Vous êtes polar, Grégoire Rabin. Je n'aurais pas deviné.
Non, vous n'auriez pas deviné, mais ce n'est pas vraiment du polar. On a
ah,
une
ah,
invitée au
oui,
téléphone,
alors.
Sylvie
Allez.
Calais. Bonjour, Sylvie.
Bonjour.
Alors, donc mes acolytes là qui me font des misères, vous ne
jamais,
pouvez
jamais,
pas
c'est
savoir.
Pas vrai.
Vous ne pouvez pas savoir les misères qu'ils me font. Non, ils sont gentils, ils sont en train de partir me chercher un café. Donc effectivement, ce n'est pas vraiment du polar au sens de roman d'enquête, mais c'est plutôt un roman noir autour de la question sociale. Donc c'est à la fois du social, du noir. Et un peu de polar. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous reçois, Sylvie Calais, pour parler de votre roman, Fatum, qui est publié aux éditions du Caïman. Et donc, généralement, dans l'émission, moi, je fais une petite présentation du roman. À laquelle vous êtes tout à fait conviés à réagir. Et puis ensuite, ben, nous allons échanger autour de la question du roman, autour de ce que vous avez écrit. Donc ce sera ça, la deuxième partie de notre émission. Voilà.
D'accord.
Donc, Fatum, une cité HLM comme il y en a des milliers. Une cage d'escalier aux habitants bigarrés. Parmi eux, Sohan, Myriam et leur mère Sabine qui les élèvent seules depuis le départ de son mari pour l'Algérie quelques années plus tôt. Sabrina, dite Abby, la meilleure amie de Samia, et son père Sandro, veuf depuis peu. Mais voilà que la routine est bousculée par une nouvelle venue, totalement différente. On se demande, mais que vient donc faire ici Madame Henri? La meuf au livre, comme la surnomme Abby, la copine
De Samia.
de Myriam.
Non, de Samia.
Ah, de Sonia, pardon.
De Samia.
De Samia. Ah, oui,
Samia,
bah,
voilà.
ouais. La copine de Samia. Et c'est une femme âgée, distinguée, qui débarque dans un milieu plutôt populaire et bon enfant. Samia se lie d'amitié avec cette dame, au grand dam d'Abby, sa grande copine. Entre-temps, Sohan et Kevin, qui se fait appeler Younes, tombent sous la coupe de deux barbus, qui installent un climat de crainte parmi les habitants de la cité. Voilà tous les ingrédients d'une tragédie. Le Fatum sera peut-être là. Un beau roman indispensable aux éditions du Caïman.
Merci.
Voilà Sylvie. Ce roman, il est pas vraiment un policier, c'est pas vraiment uniquement un roman noir, c'est pas vraiment un roman sociologique. Est-ce que vous pouvez nous le définir un peu?
Alors, moi, s'il faut le qualifier, même si les frontières peuvent être poreuses, je le qualifie de roman noir social. C'est vrai qu'il démarre par une agression mystérieuse qui ouvre sur une enquête, mais voilà, l'enquête, elle est à la marge, hein, dans le schéma narratif. Mais pour moi, l'appartenance au genre noir, ça provient vraiment du choix des thèmes, de la vision de la société, puisque ce roman noir dépeint une société en crise. Et puis aussi du choix des personnes qu'on met en avant, puisque c'est souvent une frange de la population qu'on invisibilise, hein, dont on parle peu, population assez populaire, pauvre, qui vit dans des quartiers où la violence et l'insécurité sont monnaie courante. Donc, voilà. Donc pour moi, le roman noir social. Il englobe un peu ces différents aspects, le fait de parler des problèmes d'une société en crise.
Oui, et on voit d'ailleurs que les personnages, il y a une violence dans la cité, hein, vous en avez parlé, mais il y a aussi une violence sociale avec Sabine qui n'est pas sûre de pouvoir conserver son emploi parce qu'il faut qu'elle soit toujours à l'heure, etc., etc. Sandro, qui a perdu sa femme et qui est vraiment totalement ravagé par cela, mais qui en même temps est, semble-t-il, un coureur de jupons. On a vraiment une panoplie de gens qui sont dans des situations de, je dirais, de violence à la fois sociale et de violence physique, quoi.
Oui, il y a une violence sociale, ouais. Ouais.
Et on voit arriver cette Madame Henri, dont on imagine qu'elle vient d'un monde un peu différent. Et cette Madame Henri, elle fait tâche, entre guillemets, dans cette population, parce qu'on sent bien qu'elle a une autre éducation, on sent bien qu'elle a d'autres centres d'intérêt. C'est une femme qui possède des quantités phénoménales de livres, c'est une femme qui est extrêmement méticuleuse, son appartement est quasiment une salle d'opération tellement il est propre, etc. Et donc elle est complètement en décalage avec ses personnages, et on peut s'interroger de savoir qu'est-ce qui la pousse à venir là, quelle détresse, c'est un peu la question que se posent certains de ses cohabitants, c'est quelle détresse a bien pu lui tomber dessus pour qu'elle soit amenée à venir vivre dans cette HLM. Et donc ça, dans le roman, on le découvrira. Mais c'est vrai qu'on est sur une position, je dirais, de décalage entre cette personne et puis le reste des habitants. Et effectivement, cette personne est agressée chez elle. Et le livre s'ouvre quasiment là-dessus, puisque c'est le premier chapitre avant un petit prologue, mais on parlera de cette structure narrative un peu plus tard. Elle s'ouvre sur la découverte de de l'agression de cette Madame Henri, et petit à petit vont se mettre en place toutes les pièces de ce qui est quelque chose comme une sorte de tragédie.
Oui, c'est une tragédie. Et puis le mystère de l'installation de Madame Henri, c'est un des ressorts du roman. Mais les habitants, certains peuvent s'émouvoir ou s'interroger sur la détresse qui l'a conduite à s'installer là. Mais il y a aussi une sorte de, je ne sais pas si on peut dire, racisme qui s'installe et qui s'instaure parce qu'elle n'est pas des leurs non plus.
Tout à fait, oui.
Donc voilà, voilà, ça peut aller dans les deux sens, cette exclusion sociale. Peut aller dans les deux sens. Et effectivement, elle, voilà, c'est une femme qui a plein de livres. Elle est déjà suspecte à ce titre-là, dans ce cadre, enfin dans cet univers où le livre n'est pas forcément le bienvenu, où on lit pas, soit on a un peu peur des livres, enfin, voilà.
Tout à fait. Ce qui est la réaction, par exemple, d'Abby, qui trouve totalement terrifiant que cette femme ait autant de livres et qui donc, par là même, considère qu'elle est une sorte d'ennemi, quoi.
Oui.
Une sorte d'ennemi à la fois parce qu'elle a beaucoup de livres et parce que sa copine, Samia, elle est attirée par ces livres-là. Et
oui.
Donc, va s'instaurer une relation privilégiée entre sa meilleure copine et la femme qu'elle déteste. Et là, on est bien sur un ressort qui est un ressort de tragédie.
Oui, effectivement.
Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut se poser la question de savoir qui a commis l'agression de Madame Henri, et on soupçonne cette Abby d'avoir été celle qui a commis cette agression. Et il y a des personnages intéressants, mais vous brossez très bien, par exemple, le personnage de Younes, hein, qui s'appelle réellement Kevin, qui est dans une famille, disons, d'une bourgeoisie moyenne, avec des parents plutôt démissionnaires, etc. On se rend bien compte que lui, il vit dans un pavillon. Il ne vit pas dans cet HLM, oui. Il vit dans un pavillon. Oui. Mais il est quand même intégré.
Hein? Il est quand même intégré. Parce que, bon.
Il est quand même intégré. Ouais. Tout en glissant subrepticement vers la voie d'une intégration dans quelque chose qui est le salafisme, même si vous ne dites pas le nom, quoi. Mmh. Alors, qu'est-ce qui vous a conduite à vous intéresser à ces personnages, ou du moins à créer ces personnages par rapport à l'histoire que vous racontez ?
Les personnages des jeunes.
Oui, les personnages des jeunes. Ouais. Je veux dire, ouais. quand vous avez écrit, vous avez eu une intention à travers le roman, et ensuite vous avez mis des personnages sur ces intentions. Et quelles étaient vos intentions à ce moment-là ? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce roman, en d'autres termes ?
En fait, moi, je pense, j'ai côtoyé beaucoup d'élèves. Notamment des élèves de CAP chaudronnerie, électricité, beaucoup des garçons, puis des filles aussi en CAP commerce. Et j'ai eu l'occasion de beaucoup les écouter, de beaucoup converser avec eux, de discuter de thèmes assez forts, comme c'était pas toujours facile, hein, comme justement la religion, la radicalisation, la famille. Et je pense que je ne voulais, comme dit Thierry Jonquet, ni rien démontrer, ni rien dénoncer, mais que ces jeunes-là se sont imposés à moi. J'ai eu envie de les mettre en scène, et moi j'ai eu un ressenti vis-à-vis d'eux. J'avais envie de livrer, en tout cas mon ressenti vis-à-vis de ces jeunes-là. Donc je pense que les discussions qu'on a eues étaient marquantes, mmh. Et puis ce que j'ai observé aussi était marquant. Et moi-même, je viens de quartiers populaires. À la base, je suis toulonnaise. Je viens de quartiers populaires. J'ai beaucoup. Et voilà, j'ai eu envie de décrire ce milieu-là parce qu'il me semble il me semble important de donner à voir différentes dimensions. Autant il y a Swan et Kevin Younes qui vont vers l'extrémisme religieux, la radicalisation. Autant Samia, elle, a envie de s'en sortir et, grâce au livre, justement, à la lecture. Mmh. Autant Abby vire un peu racaille parce qu'elle n'arrive pas à gérer entre son père alcoolique, sa mère décédée. Et voilà, montrer aussi la diversité des profils qu'on peut avoir. Tous vivent dans des conditions pas faciles, on l'a dit tout à l'heure. Mmh. Conditions de précarité, paupérisation. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie de les mettre sur le devant de la scène parce que ce sont souvent des jeunes qui peuvent être stigmatisés, mais peut-être pas sur le devant de la scène de cette façon-là.
Oui. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous mettez en scène quand même des adolescents ou des adolescents peut-être tardifs, oui. Hein, parce qu'ils ont peut-être 16, 17, 18 ans. Ouais. Donc c'est déjà, on est presque à la majorité. Pardon ?
C'est encore des ados, je trouve.
Oui, mais bon, je veux dire, à 18 ans, on devient adulte. Mais on voit bien que Kevin, etc., ils ont 18 ans, mais c'est encore des adolescents. Je suis vraiment d'accord avec vous. Mais on voit que, autant on imagine l'adolescence comme une période d'insouciance, hein, on sort de l'enfance, on est dans un milieu familial, etc., on voit ces gamins confrontés de façon brutale à des problématiques d'adultes, et pas des problématiques d'adultes bien dans leur basket, mais vraiment des problématiques d'adultes avec des grosses difficultés existentielles et matériel, quoi. Donc moi ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est cette complexité de la description, et puis la façon dont vous décrivez ces personnages, même les moins sympathique. Hein. Moi, je pense notamment à Kevin. Je veux dire, il est abject avec ses parents. Il est totalement impliqué dans l'islamisme, dans une vision rigoriste de l'islam. Il va interpeller son copain Sohan parce que il n'oblige pas sa sœur Samia à se voiler. Donc, je veux dire, lui, il est nouveau converti, mais il est plus radical que des musulmans, je dirais, normaux, quoi. Donc, c'est intéressant. Et en même temps, dans la façon dont vous le décrivez, c'est un pauvre garçon, quoi. C'est un pauvre gars qu'on a envie de prendre dans ses bras en disant « mais viens pleurer », quoi. Mais qui est incapable de pleurer. Moi, je trouve que c'est vraiment très fort de ne pas être dans le manichéisme. Vous vous êtes inspiré de personnages réels, de gamins que vous avez rencontrés pour créer Younes. Par exemple, est-ce que Younes, vous l'avez rencontré? Est-ce que Sohan, c'est quelqu'un que vous avez rencontré? C'est quelqu'un que vous avez vu parmi ceux que vous avez côtoyés?
Alors, c'est souvent le mélange de deux ou trois jeunes, en fait. C'est un petit peu un bricolage comme ça de choses qui m'ont marqué. Effectivement, un jeune qui était converti, qui était plus radical que les autres, un autre jeune qui avait vraiment un problème, voilà, qui avait des yeux fous, qui, quand j'animais les ateliers d'écriture, qui avait mis le feu au paperboard, qui, enfin, voilà. Et puis, c'est un mélange de plusieurs personnes. Moi, je prends jamais une personne, en fait. Je construis vraiment mes personnages à partir de deux ou trois personnes en empruntant un peu des traits ou des situations à chacun. Et Sohan, c'est la même chose, en fait.
D'accord.
Et puis, il y a aussi l'imagination qui... On va dire qui intervient comble
pour,
les lacunes,
voilà, ou qui, pour combler oui, les lacunes et puis, ouais, et puis ouais. faire tenir l'ensemble en un seul personnage, oui.
Voilà.
D'accord. Votre roman, il a une particularité aussi, c'est qu'on suit ces différents personnages dont j'ai déjà parlé, et puis il y a des inserts qui sont en italique d'ailleurs, pour bien montrer que ce n'est pas l'histoire elle-même, qui sont très courts au début et qui à un moment donné deviennent un peu plus longs, des inserts très énigmatiques, et où... on se pose la question de savoir qui est le narrateur. Parce que dans tout le roman, il y a un narrateur qui raconte l'histoire de ces différents personnages dans ce lieu. Et puis, il y a un autre narrateur qui parle à la première personne,
oui.
qui vit une situation de violence, mais extrême, hein, et qui va... néanmoins, on va découvrir à la fin du roman, mais c'est quand même très intéressant de cette forme-là d'écriture. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette distinction entre les deux personnages?
Déjà, j'avais envie de travailler sur plusieurs registres de langage parce que les passages écrits au jeu sont écrits dans une écriture assez soutenue, parfois poétique. Et puis c'est un personnage ce personnage qui est décrit dans ses affaires vient du passé. Enfin,
la narration est une narration oui. au passé en fait. Hein,
une narration au passé.
Elle n'est pas au passé, mais elle parle du passé. Oui, on comprend bien que on parle d'un temps. J'allais dire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Elle parle d'un temps relativement ancien. D'ailleurs, on a du mal à le situer. Est-ce que ça se passe il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a un siècle, il y a deux siècles?
Ça, on le sait après. Ouais, voilà,
on le découvrira bien entendu. Mais
l'idée, c'est que ce passé influe sur le présent. D'où l'idée de Fatum. Fatum, comme on veut dire, avec un peu de psychogénéalogie, hein, ces secrets de famille, ces choses qui pèsent sur le poids des héritiers.
Oui.
Pour moi, voilà, c'est pour ça que les deux histoires se recoupent à la fin. Il y a un point de jonction puisque cette histoire du passé va peser sur le présent d'un des personnages du livre.
Oui, d'accord. Oui. Je vais lire le la toute première intervention de ce narrateur-là, pour donner une idée de la façon dont vous écrivez. Je suis né du néant dans une pièce sombre, un cagibi étroit et aveugle, pompeusement baptisé chambre, aux murs froids, festonnés de salpêtre, dont le poudroiement gris et les failles verdâtres furent au mi-temps de mon enfance mon principal motif de distraction. Comme l'on se perd parfois dans les motifs psychédéliques d'une tapisserie, je voyageais dans les infractuosités rugueuses de ma caverne, m'engouffrais dans les chancrures des pierres laissées à nu, soufflais sur leur effritement pour envoler des miettes, me lovais dans les alvéoles cendreuses de la paroi d'où sourdait une tendresse minérale et liquide, la seule qui m'était consentie. Du plafond cloqué perlait de temps à autre une larme de suie douce, heureuse et compacte que je tentais de cueillir avec la pointe rosâtre de ma langue depuis mon grabat de fortune, soupirant d'aise lorsque j'y parvenais. J'étais un bout de rien, une honte qu'on cache et dont on hésite à se débarrasser sans trop savoir pourquoi. Sûrement un vieux reste de morale chrétienne serré à la baguette dans un chignon trop rêche. C'est ainsi que s'ouvre ce roman, et le passage que je vous ai cité est le premier passage de ce narrateur dont on ne connaît rien jusqu'au dénouement. Et c'est clair que c'est à la fois écrit de façon très recherchée, oui, et c'est d'une très grande violence en même temps.
Oui, mais je pense que là, j'ai écrit justement de cette façon très recherchée parce que les choses que je raconte sont tellement violentes que je ne pouvais pas l'écrire comme ça de but en blanc. C'était aussi une protection, je pense, pour moi, de travailler sur la forme, de travailler sur le vocabulaire, la poésie des sensations, pour arriver à faire passer cette violence-là.
D'accord. Vous êtes édité par les éditions du Caïman, dont j'ai déjà reçu des auteurs ici, etc. Pourquoi avoir choisi les éditions du Caïman? Pourquoi ne pas avoir choisi d'autres éditions? Est-ce qu'il y a un motif particulier pour ces éditions-là?
Alors, déjà, je suis très contente qu'ils m'aient choisi moi, qu'ils aient accepté mon livre quand je leur ai envoyé. Mais c'est vrai que c'est une maison d'édition que je connaissais, qui est assez engagée, dont j'ai apprécié plusieurs ouvrages. Et je pensais vraiment que ça pouvait s'inscrire dans la lignée de ce qu'il publiait, même si, comme m'a dit l'éditeur, c'est pas toujours au niveau du style, c'est parfois un peu plus, un peu plus polar, un peu plus direct, un peu moins littéraire, entre guillemets. Mais bon, les auteurs du Caïman écrivent très bien, hein, c'est pas un jugement de ma part, c'est juste... Je suis très contente d'être éditée aux éditions du Caïman parce que c'est vraiment une maison d'édition engagée qui soutient ses auteurs, qui les défend, qui présente les livres à plusieurs prix. Donc je suis très, très heureuse qu'ils aient accepté de publier Fatum.
D'accord. Vous avez d'autres projets à l'heure actuelle en termes d'écriture?
Alors j'ai des projets de parution, puisque j'ai un nouveau roman noir, mais peut-être un peu moins social et un peu plus psychologique ou intimiste, hein, puisqu'il parle d'une famille en crise, qui paraîtra le 5 novembre aux éditions du Caïman.
Au Caïman aussi, d'accord.
Ouais, ouais. S'intitule Poupée. Et puis après, donc j'ai participé à deux recueils collectifs. Donc le premier paraîtra aux éditions Arcane 17 en octobre, je pense, et devrait s'intituler « Ceci n'est pas une pipe ». Donc c'est un recueil écrit en hommage aux surréalistes.
D'accord.
Et puis le deuxième, c'est un recueil sur le thème de l'enfance en danger. D'ailleurs, une partie des droits ira à une association pour l'enfance en danger. Ça s'intitule « Sombre enfance ». Donc, c'est Dora Suarez qui a initié ce recueil, mais c'est édité aussi par les éditions du Caïman. Et donc, j'ai écrit une nouvelle qui traite du thème de l'excision, des mutilations féminines, des fillettes notamment, qui s'intitule « Vers la lumière ».
D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, merci Sylvie Calais d'avoir été notre invitée. Donc, je rappelle le titre de votre roman, Fatum, de Sylvie
merci.
Calais, aux éditions du Caïman. Un roman qu'il me semble indispensable de lire parce que ça nous parle de ce qui se passe dans des lieux pas si loin de là où nous vivons les uns et les autres. Au revoir Sylvie, et puis on se retrouvera peut-être pour votre prochaine parution chez Caïman, je le souhaite.
<J'espère>.
Allez, merci. Au revoir et merci à vous.
Au revoir.